J'ai toujours beaucoup de plaisir à me trouver parmi vous. Merci pour vos salutations. Et c'est vraiment une joie pour moi de vous revoir et puis au fil des années de voir votre fidélité. Parce que je vois les mêmes visages sur les bancs et puis quelques nouveaux visages parfois. Mais en tous les cas, à ceux que je vois grandir hein, parmi vous les jeunes, là, c'est remarquable. Ça fait plaisir, continuez. J'ai commencé donc lors de ma précédente prédication à parler de l'épître aux Hébreux et je vous ai dit que j'allais continuer de le faire. Donc la première fois, comme vous vous en souvenez, j'en suis persuadé, on avait abordé la supériorité de Jésus-Christ sur les anges et notre titre général était « Soyez confiants, Jésus-Christ est supérieur à tout ». Là, dans le cadre du chapitre 2, nous allons voir comment le Saint-Esprit a inspiré l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour répondre à des questions que les chrétiens se posent. Différentes questions que nous verrons au fil donc de ces 18 versets. Dans les 4 premiers versets, il y a, suite à l'exposition de la supériorité de Jésus-Christ aux anges, pourquoi aux anges? Parce que vous savez que dans le judaïsme, les anges ont un rôle important, c'est eux qui ont transmis la parole de Dieu à Moïse, hein, pour qu'ensuite lui la transmette au peuple. Et donc, toute la théologie rabbinique sur les anges leur donne un rôle très important, ce sont des intermédiaires, comme Moïse est un intermédiaire d'ailleurs. Mais voilà que, en ce qui concerne le Nouveau Testament, c'est une relation directe avec Dieu par Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, étant lui-même Dieu le Fils. Donc il y a une énorme différence pour les Juifs, parce que jusqu'à maintenant, ils avaient une relation avec Dieu au travers de la révélation qui avait été donnée par des intermédiaires, et voilà que la révélation finale est donnée directement, c'est d'ailleurs les premiers versets du chapitre 1, de l'Épître aux Hébreux, la révélation est donnée directement par Dieu le Fils lui-même. Hein, ce n'est plus par des prophètes. Et de là, la supériorité de Jésus-Christ par rapport à ce qu'on appelle tout le système lévitique, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place pour pouvoir s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament, donc en particulier dans la conception juive. Et les 4 premiers versets du chapitre 2 sont comme un avertissement pour les chrétiens juifs. Pourquoi? Parce que les chrétiens juifs, nous dit l'Épître, après s'être engagés de tout cœur pour servir le Seigneur, font face à une persécution et se posent des questions. Et certains d'entre eux seraient presque prêts à retourner quelque part à une pratique de l'Ancien Testament. Alors, il y a dans ces 4 premiers versets un avertissement solennel, puisqu'il est dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, c'est-à-dire la loi qui a été transmise par les anges, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, c'est tout ce qui parcourt l'Ancien Testament, où on voit Dieu qui aime son peuple, le peuple descendant d'Abraham, hein, le peuple d'Israël, mais en même temps qu'il aime son peuple, il corrige son peuple en quelque sorte, et des sentences extrêmement graves ont été prononcées, des Juifs ont perdu la vie. Alors, on ne remet pas en question leur salut éternel. Simplement le fait que, ici-bas, sur cette terre, leur vie s'est vue interrompue brutalement parce qu'ils avaient mal agi pour certains d'entre eux. Donc, il rappelle ces faits à ces chrétiens juifs et il rajoute la chose suivante. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, et il se met lui à l'intérieur, au même niveau que les autres, hein, comment échapperons-nous en négligeant? Donc il y a une espèce de négligence coupable qui pourrait se glisser dans l'esprit de ces auditeurs, en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, donc là il n'est plus question d'intermédiaire, mais d'une révélation directe donnée par le Fils de Dieu, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa vérité. Sa volonté, pardon. Donc l'auteur, en conclusion, l'auteur encourage ses lecteurs à se souvenir de la vérité qu'ils ont entendue. Sinon, ils courent le risque de se laisser entraîner par de faux enseignements, c'est-à-dire de retourner en quelque sorte sous la loi. Restez vraiment attentifs pour nous, chrétiens comme pour eux, ceux qui nous ont précédés, est quelque chose de très difficile, d'être en permanence conscient de cette parole de Dieu et de notre relation avec lui. Et être à l'écoute de Christ, comme on le dit, je suis à l'écoute du Seigneur, j'écoute sa parole, c'est effectivement l'écouter, mais c'est aussi lui obéir. On ne peut pas parler d'écouter la parole de Dieu dans les Saintes Écritures sans que de facto ça entraîne une obéissance. Quand l'Éternel dit « Écoute, ô Israël », le fameux schéma Israël, « L'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel », il dit « Écoute de, », de là, d'ailleurs en hébreu, schéma, « Écoute ». Écouter, ça ne veut pas dire entendre. Écouter, ça veut dire plus qu'entendre. On entend un bruit, mais on n'y prête pas plus attention que cela. Écouter, c'est véritablement intégrer la vérité qui nous est révélée pour la vivre, non pas simplement pour savoir qu'elle existe, mais véritablement pour qu'en quelque sorte elle ait un impact, elle nous impacte, notre être tout entier, esprit, âme et corps. Écoutons donc attentivement cette parole et soyons prêts à suivre ses instructions. Et cette première exhortation qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, qui est un appel à ne pas dériver par rapport à la parole de Dieu, il dit « sinon vous seriez entraînés loin de ces choses, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles », le dernier appel qu'on trouve au chapitre 12, versets 14 à 29, bon, le passage est assez long, mais j'ai extrait que le verset 25, le dernier appel, c'est de ne pas défier la parole de Dieu. Donc il y a une différence entre dériver par rapport à la parole de Dieu et défier quelque chose ou quelqu'un, c'est s'opposer. C'est donc être dans une situation de quasi-rébellion. Alors, c'est important de souligner que la négligence entraîne, la négligence liée à un découragement, parce que là, les chrétiens auxquels l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse sont des gens dans le découragement, dans le questionnement, dans l'adversité, mais la négligence peut entraîner une résistance, une opposition, donc le fait de se défier Dieu. Il faut faire attention que si d'aventure on a le sentiment que on devient négligent par rapport à la relation avec Dieu, qu'il n'y ait pas un endurcissement de notre être qui n'apparaît pas toujours à l'extérieur. Vous savez, on peut être très engagé dans l'Église et en réalité défier Dieu dans le fond de son cœur. C'est ce que l'Éternel reprochait déjà au peuple juif quand, dans l'Ancien Testament, il disait « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça, c'est défier Dieu. Dans un des prophètes, il est dit tu me jettes par-dessus ton épaule. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire bon, ben, ça va quoi. Donc on peut être parfaitement dans une attitude de défiance tout en ayant une apparence spirituelle. Alors il faut, les Saintes Écritures nous demandent de faire très attention à cela. Et le verset 25 du chapitre 12 nous dit gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre, donc c'est des questions de ceux de l'Ancien Testament, celui qui publiait des oracles sur la terre, c'est-à-dire Moïse, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Donc, avec beaucoup de finesse et d'intelligence, le Saint-Esprit a inspiré à l'auteur de l'Épître aux Hébreux cette vérité théologique. Dans le Nouveau Testament, la révélation vient directement de Dieu. Et donc on n'a plus affaire simplement à une révélation donnée par des intermédiaires humains ou par des anges, comme c'est le cas de l'Ancien Testament, mais on a affaire directement à une parole prononcée par Dieu le Fils lui-même. Et donc, il souligne l'importance de l'auteur de cette révélation, qui doit entraîner effectivement notre attention, notre concentration, notre mobilisation et notre désir d'obéir. Parce que c'est Dieu qui nous a parlé directement et qui nous parle directement par le Nouveau Testament, sans intermédiaire. Les intermédiaires sont arrivés après, c'est-à-dire les apôtres. Mais dans les écrits du Nouveau Testament, on trouve des paroles directement prononcées par le Fils de Dieu lui-même. Le thème central donc de l'épître aux Hébreux est le fait que Jésus-Christ est infiniment plus grand que tout autre chemin vers Dieu. Alors, il faut se mettre à la place des Juifs. Ils ont des siècles de révélations données par Moïse et les prophètes que Dieu a envoyés. Ils ont une façon de fonctionner dans leur relation à Dieu, dans leur religion. Et voilà qu'on leur dit, mais écoutez, tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, l'important est en Christ, l'essentiel, le centre est en Christ. Plus de sacrifices à offrir, il a été complètement offert à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette culture qui est là, dans ses premières années de vie chrétienne, vient se heurter à l'Évangile. C'est un petit peu comme pour nous en France, des catholiques qui se convertissent, ou des protestants luthériens ou réformés de père en fils qui se convertissent à Christ, et à un moment donné, ils se posent des questions. Un libre penseur qui n'a rien à voir avec la religion, qui se convertit à Christ, va aussi être parfois rattrapé par ses pensées, de la libre pensée, donc la pensée athée, et va se poser des questions. Alors, se poser des questions, c'est tout à fait indispensable, et c'est utile, parce que quand on se pose pas de questions, on risque pas d'approfondir grand-chose. Mais quand on est troublé dans ses réflexions et qu'on se pose de profondes questions, automatiquement on va chercher la réponse. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit permet que parfois dans nos vies, on se pose de vraies questions. Ai-je fait le bon choix? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie avec le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que ces questions ne sont pas là pour saper notre foi, mais au contraire pour la fortifier. Pour aussi développer notre intelligence, donc notre adhésion, pour que notre foi devienne une foi librement consentie et bien comprise. Et ça, c'est très important. Vous savez, on n'est pas appelé en tant que chrétien évangélique, en tant que chrétien biblique, à prononcer des dogmes étrangers à notre vie. Nous, on professe une vie. Hein, on professe pas simplement une doctrine, on professe une vie. Une vie nouvelle en Christ. Alors ne soyons pas troublés si on se pose des questions, au contraire, soyons heureux, parce que ces questions vont nous permettre d'approfondir notre foi, et c'est ainsi que Dieu, par son Esprit Saint et sa parole, fortifie notre foi, la fait grandir, l'établit, et que notre intelligence adhère pleinement à cette révélation de Dieu. Des témoins oculaires, dit le verset 3, avaient transmis les enseignements de Jésus, donc ce sont les apôtres, hein, aux lecteurs de cette épître. Ces derniers faisaient partie de la deuxième génération de croyants et n'avaient pas vu Christ dans sa chair, donc ça c'était après les pères de l'Église. De même, nous n'avons pas vu Jésus personnellement. Quand on pense à nous aujourd'hui, on n'a pas vu le Christ personnellement. Donc nous basons notre foi en lui sur les récits rapportés dans la Bible. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 20, verset 29, dans l'évangile de Jean, va dire à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus donc encourage ceux qui croient sans l'avoir jamais vu. Mais croire sans avoir vu, est-ce suffisant? Certainement pas. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures nous enseignent que croire, c'est véritablement expérimenter la vie nouvelle en Christ. Et c'est pour ça que le texte rajoute au verset 4, « Ceux qui ont entendu Jésus et qui ont ensuite transmis ses paroles ont aussi reçu la confirmation de leur message par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit. » Et dans le livre des Actes, les miracles et les dons de l'Esprit authentifiaient la bonne nouvelle partout où elle était prêchée. annoncer notre salut à nos prochains, partager l'évangile va nous faire rentrer dans une expérience personnelle avec Jésus-Christ qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit qui rend témoignage de notre foi. Quand vous témoignez à quelqu'un, automatiquement il se passe quelque chose. Même si vous pensez que votre témoignage n'a pas été très académique ou très facile à rendre, mais il n'empêche que le Saint-Esprit, quand nous témoignons, est libéré en nous pour pouvoir justement nous communiquer cette joie, cette présence du Seigneur, cette expérimentation personnelle de ce qui est écrit. Je me souviens de quelqu'un qui avait des gros problèmes dans l'église et qui, au moment où on devait faire l'évangélisation, est venu et il me disait « il faudrait que je te voie et tout ». Je lui ai dit « écoute, on va se voir après ». On doit sortir, on fait de l'évangélisation, on se reverra après. Et donc quand on est revenu de notre après-midi d'évangélisation dans la rue, et que on s'est retrouvé face à face, je lui ai dit « alors, quels sont tes soucis ?» Et lui, il m'a répondu « j'en ai plus ». Alors j'ai dit « ah bon, pourquoi t'as plus de soucis ?» Et il me dit « parce que j'ai été au contact des perdus, je me suis rendu compte en leur parlant de ce que Dieu m'a accordé, et d'un seul coup, mes soucis, je me suis rendu compte qu'ils étaient superficiels, par rapport à quelqu'un qui est perdu, qui connaît pas le Sauveur, alors que moi je le connais, que j'ai été transformé par lui. » Alors il me dit « Jean, j'ai plus de soucis. » Ben je lui ai dit « ben merci Seigneur, on a prié ensemble. » Et puis il avait expérimenté ce que les premiers témoins suite à la Pentecôte ont expérimenté, la plénitude, la puissance du Saint-Esprit. Et ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'Église et sur les bancs de la faculté de théologie ou d'institut biblique. Il faut y aller, au contact avec les perdus, parce qu'il y a que avec cette expérience-là que on découvre cette présence du Seigneur. Et je me souviens de jeunes qu'on avait emmenés dans une évangélisation à la ville de Toulouse. Je crois que j'en ai déjà parlé. Des jeunes qui on était une cinquantaine à être descendus à Toulouse pour faire de l'évangélisation avec l'Église là-bas. Et quand on est revenu sur Paris, il y en a huit qui m'ont dit « on voudrait passer par les eaux du baptême ». Et je leur ai dit « mais qu'est-ce qui vous arrive depuis le temps qu'on vous en parle ?» Et ils m'ont dit « écoute Jean, on est descendu avec toute l'équipe faire de l'évangélisation à Toulouse. C'était des jeunes, hein, je dirais 18-25. Ils m'ont dit « on n'était pas toujours très clair dans notre vie ». On avait des difficultés dans notre vie avec le Seigneur, on commettait des péchés, tout ça, et on s'en sortait pas. Mais là, on a vu qu'étant imparfait, sauvé mais imparfait, le Seigneur nous a utilisés avec puissance, et on a eu une telle joie de partager l'Évangile et de voir que le Seigneur nous utilise, alors que nous, on est démoralisés et découragés par notre propre vie, ça nous a littéralement transformés. Ils ont goûté à la puissance du Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui fait que, dans les Saintes Écritures, c'est pas le tout de connaître, ou de savoir plus, faut connaître. Et connaître, c'est expérimenter la parole, expérimenter la présence du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur en nous, qui, comme on l'a... Ah ben non, c'était dans notre église ce matin, comme on l'a chanté, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors voilà donc c'est les raisons de ces premiers versets. Et puis, non, c'est fou comment le temps passe vite chez vous. Et puis, le Saint-Esprit a conduit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans un autre questionnement, qui est le questionnement de mais on est chrétien, mais on est faible. On est chrétien, mais on ne règne pas comme les promesses sont dites. Et puis, on est chrétien, mais le Seigneur. Quand on va au contact avec les perdus, comme le rapporte l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 3, quand il dit, certains disent, rien n'a changé depuis l'époque de nos pères, sous-entendu, vous nous racontez des balivernes, parce que ça fait des siècles que le Seigneur est pas revenu, enfin on attend, il se passe rien. Et alors, là il va répondre à cette double question. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, alors ce quelqu'un, c'est le roi David, hein. C'est dans le psaume 8, et je vais vous lire ce psaume qui est très court. Le psaume 8, il est dit au chef des chants sur la Gittite, Psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif, pardon. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Si on remonte en pensée à la réflexion première de Dieu, la volonté première de Dieu, après avoir créé le règne végétal, animal, il en arrive à créer l'homme et la femme, mais il a créé des êtres, Adam et Ève, de peu inférieurs à lui-même. Nous sommes dans la création les seuls à être créés à l'image de Dieu. Alors, peut-être qu'en ce jour de dimanche du mois de novembre, vos pensées sont loin de cette réalité, mais Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui-même. Nous sommes, pour reprendre des textes de la parole, entre autres le psaume 139, enfin, des parties du psaume 139, nous sommes des créatures merveilleuses. Merveilleuses parce que créées à l'image de Dieu, mais en même temps des créatures déchues. Alors évidemment, dans le psaume 8, il dit « Tu lui as donné, en parlant de la créature, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Donc là, on voit l'expression d'une domination que Dieu a accordée à l'homme dans le jardin d'Éden, sur sa création. Mais depuis la chute, on voit plutôt non pas une domination de l'homme, mais une exploitation de l'homme qui exploite les créatures et qui exploite la terre et ses produits au point d'en dénaturer la nature et qui exploite aussi les animaux. Et tout ce que le péché a entraîné chez l'être humain, c'est non plus une domination dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire une domination bienveillante, intelligente, harmonieuse, et aimante que seul Dieu est capable d'accomplir, mais là on est tombé dans l'exploitation. Alors il y a de quoi se poser des questions. Et puis dans le texte, on voit bien que l'homme ne domine plus sur rien. En réalité, il a servi. C'est non plus la domination dans le sens biblique, mais c'est véritablement la domination lié à la méchanceté de l'ennemi. Paul va dire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, que la terre soupire les douleurs de l'enfantement en attendant l'avènement des fils de Dieu. Parce que toute la création soupire à cause de la stupidité dans laquelle elle a été placée. Et puis, dans ce texte, il est dit au verset 9, « En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » S'il y a un être enfermé dans un corps humain, c'est-à-dire je parle là de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils qui devient parfaitement Dieu et parfaitement homme. Dieu le Fils dans son incarnation est le seul à avoir dominé sur toute la création. Il a dominé sur la tempête, il a dominé sur les animaux, sur les poissons des mers, quand il dit à Pierre « jette ton filet », Pierre lui dit « attends, on a pêché toute la nuit ». jette ton filet, et Pierre est obligé d'appeler ses amis pour tirer le filet tellement il y a de poissons. Et quand il est question de payer un droit de douane, une taxe pour franchir un pont, Jésus dit « pêche un poisson, tu vas trouver l'argent dedans, dans le poisson ». On voit bien cette domination du Sauveur, même sur la mort, quand il ressuscite les personnes qui sont décédées. Donc la seule créature... Le seul être enfermé dans un corps humain, donc je retire le terme créature puisque Jésus est préexistant de toute éternité, mais par son incarnation, c'est le seul qui, en tant que Dieu fait homme, a dominé sur la création. Et on le voit par la foi, et parce qu'on le sait, dans notre intimité avec lui, on le voit couronné de gloire et d'honneur en attendant son retour. Donc de la même manière qu'il a été capable d'accomplir ce que nous avons perdu par le péché, c'est-à-dire cette domination bienfaisante, Jésus l'a eu pendant son ministère sur cette terre, eh bien nous partagerons la gloire avec lui, puisqu'il est dans la gloire et il a payé le prix de nos péchés, afin que nous puissions être avec lui, puisqu'il est dit au verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses » et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, c'est-à-dire Dieu le Père, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire c'est le Christ qui nous sanctifie, et puis c'est nous donc qui sommes sanctifiés, sont tous issus d'un seul. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, le Fils, nous sommes aussi issus de Dieu le Père, dans l'ordre créationnel, et dans l'ordre spirituel, nous avons été rachetés par le Seigneur. Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et s'il nous appelle ses frères, c'est parce qu'on va aussi partager sa gloire. Donc voilà comment le Saint-Esprit, par les écrits de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, encourage les chrétiens de l'époque, d'origine juive, à persévérer dans la foi. Et puis, il va, pour confirmer tout cela, aborder une troisième question, et qu'on trouve au verset 14. Il dit, « Ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire vous et moi, participent au sang et à la chair, il, donc le Christ, y a également participé lui-même. » Donc là, il va répondre à une interrogation que se posent les chrétiens, qui est une interrogation basique, mais il va rajouter ce que jamais personne n'avait fait, en dehors du Fils unique du Dieu vivant, c'est une identification au genre humain. Le Christ, Dieu le Fils, est identifié à chacun d'entre nous en acceptant un corps semblable au nôtre, avec les limites qui lui ont été imposées en tant que Dieu, et son abaissement volontaire. Donc, il est en train de dire, mais ce Christ, ce Fils du Dieu vivant, s'est véritablement identifié à chacun d'entre nous, chose que personne n'a pu faire auparavant. Et pourquoi est-ce qu'il s'est identifié à nous? Afin que par la mort, donc sa propre mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous le savons, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas simplement la mort physique. C'est la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. La mort spirituelle, c'est l'enfer. La mort physique, vous le savez, c'est le passage obligé pratiquement, à moins que le Seigneur revienne de notre vivant. Et c'est le passage obligé pour chaque être humain, avant de comparaître dans le monde futur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette servitude qui entraîne la mort, est le péché. Et nous avons été délivrés non seulement de la mort en tant que telle, puisque celui qui est mort vivrait quand il serait mort, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Nous avons été délivrés de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation avec Dieu, on a été réconcilié. On a été délivré de la mort éternelle, c'est-à-dire du jugement et de l'enfer, pour recevoir la vie éternelle, donc la certitude d'être en présence de Dieu, d'aller directement dans le paradis. Et puis, on a été délivré de la puissance du péché. C'est-à-dire qu'on peut, dans nos corps mortels, en tant que chrétiens, ne pas pécher. Je n'ai pas dit ne plus pécher, j'ai dit ne pas pécher. C'est-à-dire qu'on est capable de vivre une vie de rendue capable par la présence du Saint-Esprit en nous, par la vie de Christ en nous, rendue capable de ne pas pécher dans nos corps mortels. Ça, c'est la vie de résurrection. Ça, c'est ce qui fait de chacun d'entre nous ce qu'on appelle des disciples, des femmes et des hommes en Christ mature, qui expérimentent par l'obéissance à la parole de Dieu et la connaissance du Fils de Dieu, la capacité de vivre cette vie de sainteté, et en même temps de regarder les événements qui sont liés directement à notre vie personnelle, communautaire et nationale, puisque cela a été rappelé par notre ami, les terribles drames qui ont déjà eu lieu dans d'autres pays, qui ont de nouveau eu lieu en France et qui, hélas, on peut l'imaginer aisément, auront encore lieu. Ça nous permet de comprendre le sens et de ces choses et d'apporter un message d'espoir à ceux qui nous entourent. Alors soyons encouragés, vous et moi, ne soyons pas négligents, mais livrons-nous au Seigneur de toute notre aide, de tout notre cœur, pour connaître cette vie avec Christ, en comprenant, lorsque on lit les Saintes Écritures, en comprenant tout l'héritage que Dieu nous donne au travers de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.